dans les idées, Sylvain Bourbeau. À de rares exceptions, l'ensemble des pays de la planète sont entrés ces dernières années dans un moment punitif. Jamais auparavant a-t-on privé autant d'individus de leur liberté. Et loin de ne concerner que des régimes autoritaires ou des dictatures, ce phénomène prend toute sa mesure dans la plupart des démocraties, notamment aux États-Unis, qui peut faire figure de laboratoire punitif, mais aussi en France où en 2016, le record de population carcérale a été battu avec 70 000 détenus. Comment comprendre cette frénésie punitive? Pourquoi punit-on? Qui punit-on? Ce sont les trois questions que pose l'anthropologue Didier Fassin dans un bref et dense essai issu des prestigieux Stanner Lectures qu'il a donné à Berkeley en avril dernier. Il est aujourd'hui l'invité de la suite dans les idées. Didier Fassin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, professeur de sciences sociales à l'Institut d'études avancées de Princeton et aussi directeur d'études à l'École des études en sciences sociales. Et vous faites paraître ces jours-ci aux éditions du Seuil « Punir, une passion contemporaine », un essai donc issu de conférences que vous avez prononcées au printemps dernier à l'université Berkeley, qui sont l'occasion pour vous de revenir de manière plus théorique sur un objet de recherche. Le moment punitif, tel que vous l'appelez, que vous avez jusqu'à présent abordé à partir d'enquêtes sur le travail de la police, sur le travail des tribunaux et puis sur ce qui se passe en prison en particulier. Donc ces conférences sont l'occasion de porter un regard rétrospectif sur ce travail de recherche et de confronter ce travail de recherche à des réflexions de ceux qui vous ont précédé, parfois longtemps auparavant, du côté de la philosophie ou des sciences sociales, pour essayer de répondre à trois questions que vous vous posez et que j'ai formulées dès l'introduction de cette émission, des questions qui peuvent paraître simples mais qui exigent des réponses complexes que vous rendez possibles en faisant cohabiter au fond des résultats de recherche empirique avec l'exploration ou l'exposition des thèses les plus classiques sur la question de la punition, dont on voit bien qu'elles ont du mal à tenir face à ce que vous avez observé, vous, comme chercheur sur le terrain. Je voudrais qu'on commence par la nature de cet exercice un petit peu particulier pour vous qui avez fait le choix depuis une dizaine ou une quinzaine d'années de privilégier l'enquête ethnographique, Didier Fassin.
Alors effectivement, les conférences de Tanner donc de l'université de Berkeley étaient pour moi l'occasion de poser un regard en quelque sorte rétrospectif, synthétique et bien sûr théorique sur des travaux, un ensemble de travaux empiriques que j'avais réalisés. Ces Tanner Lectures sont habituellement donnés par des philosophes ou des théoriciens du politique ou du droit. Et c'était la première fois qu'un anthropologue y présentait ses travaux. Et il me semblait justement intéressant de tester ces travaux de philosophes moraux et de juristes autour de la question du châtiment, la question de l'acte de punir, à partir d'enquêtes empiriques, d'enquêtes sur la police, sur la justice, sur la prison, qui, me semblait-il, mettaient à l'épreuve des choses qui semblaient aller de soi du point de vue de la définition, qu'est-ce que punir, du point de vue de la justification, pourquoi punit-on, et du point de vue de la distribution, qui est une question qui a été beaucoup moins étudiée par les juristes et les philosophes, c'est-à-dire qui punit-on. Et je crois qu'il y a là quelque chose de plus général que j'ai essayé de développer, qui est cet aller-retour entre le théorique et l'empirique, où l'enquête constitue une sorte d'épreuve de vérité qui pousse un peu plus loin la réflexion théorique ou les pratiquement les postulats lorsqu'il s'agit de définition, et notamment la grande différence entre les approches juridiques ou philosophiques et les approches de sciences sociales, c'est que les premières sont normatives, disent « qui doit-on punir ?» Comment doit-on punir? Pourquoi doit-on punir? Alors que nous, sociologues, anthropologues, historiens, nous réfléchissons sur la manière dont effectivement on punit et des raisons effectives de qui est puni effectivement et non pas qui doit-on.
Alors vous commencez ce travail par l'exposition de deux histoires, qui sont deux histoires parallèles au fond, qui permettent de défaire une articulation qui semble trop évidente entre le crime et le châtiment, puisque ce sont les deux mots que vous choisissez pour, au fond, résoudre la question de la difficile translation, traduction du vocabulaire français vers le vocabulaire anglais, où le mot crime ne veut pas dire crime, etc., où vous le revendiquez un vocabulaire dostoïevskien, crime et châtiment. Mais ces deux histoires, l'une est racontée en 1926 par un anthropologue très célèbre, Malinowski, et elle concerne un adolescent de 16 ans dans ces îles trop brillantes que Malinowski a observé de très près pendant longtemps. Et l'autre est une histoire racontée par une journaliste du New Yorker récemment, en 2016, et elle concerne un adolescent du même âge qui lui habite dans un quartier de New York. Et ces deux histoires vous donnent l'occasion de montrer qu'au fond, la relation entre crime et châtiment n'est pas évidente. Il peut y avoir châtiment sans crime et il peut y avoir crime sans châtiment.
Alors effectivement, en reprenant cette formule bien connue et presque littéraire, crime et châtiment, on peut facilement comprendre que pour la plupart d'entre nous, il y a un lien entre les deux et que la commission d'un crime appelle l'infliction d'un châtiment. Et en choisissant ces deux histoires, j'ai voulu immédiatement amener le lecteur à réfléchir sur l'existence même de ce lien, puisque dans le premier cas, celui rapporté par Malinowski, il s'agit d'un jeune homme qui a commis un inceste et qui se suicide. Mais comme l'explique Malinowski, l'inceste, qui est le crime le plus grave qu'on peut commettre chez les trop brillants, donc ces habitants de Mélanésie, c'est un crime qui, habituellement, est géré à travers une réprobation, des rumeurs, parfois des sanctions qui sont d'ordre supranaturel. Et c'est parce qu'il y a, à un moment donné, une explosion de cette histoire dans l'espace public, parce que le fiancé promis de la jeune fille vient faire un scandale, que il n'y a d'autre solution que le suicide pour le jeune homme accusé. Mais l'institution, disons, sociale, au contraire, tente à essayer de calmer les choses et de rendre possible ces situations qui sont du reste fréquentes, nous dit Malinowski. Et c'est très rare qu'on arrive à cette situation. Et cette situation, en réalité, c'est-à-dire le suicide, n'est pas liée à une punition qui serait imposée par la société ou que la personne elle-même s'imposerait, mais plutôt à une situation de honte qui a été provoquée et pour laquelle la réparation dans la dignité et le suicide, c'est la seule solution. L'autre histoire, tout aussi tragique, peut-être plus d'ailleurs, c'est un jeune homme qui se fait arrêter dans la rue pour un délit qu'il nie avoir commis. Il est mis en prison en préventive dans la tristement célèbre prison de Rikers Island à New York, où il se trouve, comme les autres jeunes de son âge, soumis à la fois à la pression et à la violence des gangs et à la brutalité et l'arbitraire des surveillants. Et le juge le revoit régulièrement pour ce qu'il apprend être le délit qu'il est censé avoir commis, à savoir voler un sac à dos avec un appareil photo dedans. Il nie et on lui propose de sortir de prison s'il accepte de plaider coupable. Et il dit non, je ne suis pas coupable. Et après 3 ans passés en prison, eh bien, le juge finit par admettre qu'en fait il n'y a aucune preuve, le laisse sortir et complètement traumatisé par cette expérience terrible, le jeune homme se suicide une année plus tard. Et on a là, donc dans le premier cas, un crime qui n'appelle pas de châtiment, dans le second cas, une absence de crime qui donne lieu à ce qui ne peut pas être vu autrement que comme une punition pour ce jeune, et une punition de surcroît qui est déterminée par les ressources de sa famille, puisque dans le système américain, il y a une caution qui permettrait d'éviter la prison. Et évidemment, il est d'une famille pauvre, noire, et il ne peut pas la payer. Et c'est la raison pour laquelle il est conduit pendant 3 ans, bien qu'innocent, en prison. Et outre, la dissociation que ces deux histoires permettent du crime et du châtiment, elle montre aussi tous les éléments sociaux, économiques, politiques qui peuvent entrer en ligne de compte dans la manière dont on punit.
Alors, au fond, avec ces conférences et cette réflexion, Didier Fassin, vous démontez ce qu'on pourrait appeler une économie morale de la peine ou du punitif. Vous montrez d'abord que cette économie morale, elle est historique. Elle n'a pas toujours existé, la preuve par les îles Trobriand, mais la preuve plus généralement, y compris dans nos sociétés occidentales. Il n'en a pas toujours été ainsi. On a vu s'opérer, et vous faites un travail de généalogie, un basculement qui a permis de lier crime et châtiment. Et d'autre part, cette articulation qui semble évidente dans cette économie morale, en fait, ne fonctionne pas dans la pratique. C'est ce que nous rappelle l'histoire tragique de cet adolescent new-yorkais. Et ce qui constituent les critères, au fond, de définition du juste châtiment, en quelque sorte, selon la philosophie ou selon le droit, ne coïncident pas avec ce qu'on peut observer en permanence. Et pour montrer ce décalage, vous avez recours, dans vos textes, à des exemples issus de vos travaux empiriques, où vous montrez, par exemple, comment peuvent se comporter, dans certaines situations, des policiers vis-à-vis de jeunes de quartier, comment peut se comporter un magistrat en comparution immédiate, ou toute chose que vous avez eu l'occasion d'observer, soit en travaillant auprès de la BAC, soit dans des tribunaux, soit dans une maison d'arrêt, Didier Fassin.
Les philosophes et les juristes nous disent de façon précise ce qu'est le châtiment, ce qu'est l'acte de punir, et les définitions qui sont généralement retenues sont qu'il s'agit d'un acte pour réprimer une infraction à la loi et la réprimer à travers des structures, des institutions légales qui ont le pouvoir légal de punir. Et cet acte de punir passe par l'infliction d'une souffrance ou d'une privation, en tout cas quelque chose qui va causer un désagrément important pour la personne qui l'a commis. Or, lorsqu'on observe les choses, bien sûr, il y a des situations qui correspondent tout à fait à cette définition, mais il y a de très nombreuses situations dans lesquelles il n'y a pas d'infraction à la loi, on va punir quelqu'un de façon exemplaire ou au hasard ou une collectivité. Et il peut s'agir d'institutions qui sont certes des institutions légales, mais qui ne sont pas légalement en droit de punir, comme notamment la police. Et donc on voit que cette définition, qui est certes normative, qui dit comment les choses devraient être, eh bien dans les faits, est remise en question. Elle est remise en question sauf sur un point, qui est l'infliction de la souffrance. Et au fond, c'est, je crois, et je pense que c'est presque évident d'ailleurs, le noyau dur du châtiment, c'est la souffrance. Et c'est tellement un noyau dur qu'il nous apparaît à tous comme étant normal que quelqu'un qui a commis une infraction, eh bien, doive souffrir. Et ce que j'ai essayé de faire à travers un travail généalogique qui utilise à la fois la philologie, c'est-à-dire l'origine des mots dans les langues indo-européennes, qui utilise l'ethnologie, c'est-à-dire l'étude d'autres sociétés, et notamment avant leur colonisation, qui étudie l'histoire également, romaine et médiévale en particulier, eh bien, on voit que, en simplifiant bien sûr beaucoup les choses, on est passé d'un système dans lequel la commission d'un acte réprouvé par la société, appelons ça un délit ou un crime, donnait lieu à une réparation. Cette réparation est en fait par le collectif, c'est-à-dire le groupe, la famille, le clan, et non pas par l'individu qui l'avait commis. Autrement dit, on était dans une logique de la dette, quelque chose a été pris et il faut rendre, une logique de l'échange, et donc la compensation était la réponse. Et puis, on a vu se développer dans le monde occidental au Moyen-Âge par un déplacement du droit germanique traditionnel ancien par le droit romain, sous l'influence notamment de l'Église et de la royauté, mais en particulier de l'Église, un déplacement vers une logique de la faute. Et la logique de la faute conduisait à faire porter la responsabilité sur l'individu. Donc on introduit la dimension de responsabilité, la dimension d'individu, et du coup, puisqu'il s'agit d'une faute, cette faute appelle un châtiment. Et c'est ainsi donc qu'on est passé d'une logique de la dette à une logique de la faute et à l'imposition d'une souffrance.
Et pour bien comprendre la centralité de cette logique du châtiment, sans doute faut-il aussi prendre en considération le plaisir qu'éprouvent certains à punir, à châtier.
Alors effectivement, il peut y avoir un ensemble de rationalités que les philosophes ont cherché à identifier. Pourquoi punit-on au fond ? Et il y a deux rationalités qu'ils ont mises en avant, de grandes théories de la justification de la punition. La première théorie, c'est celle qu'on appelle utilitariste, à savoir on punit pour protéger la société. Alors comment la protège-t-on ? Eh bien par la mise à l'écart de la personne, par exemple en prison, par la dissuasion que la punition provoque pour la société en général et pour l'individu, et éventuellement par la réhabilitation, la réforme morale de la personne dans le cadre de sa punition. Ça, c'est une première théorie. En fait, on voit que notamment dans les peines courtes, ce sont exactement les effets inverses que l'on a, c'est-à-dire que les personnes sont désocialisées, le risque de récidive est plus grand, et donc on ne protège pas véritablement la société. Puis il y a une autre théorie, qui est une théorie qu'on appelle généralement rétributiviste, c'est-à-dire on punit pour châtier. Les utilitaristes regardent vers le futur, protéger la société. Les rétributivistes, eux, regardent vers le passé. Un acte a été commis, il doit faire l'objet d'une sanction. Et donc, tous ces éléments rationnels, j'ai essayé de montrer par les travaux ethnographiques que j'ai faits, qu'en réalité, comme Nietzsche, du reste, l'avait dit il y a bien longtemps, il y a des tas de raisons pour lesquelles on punit et qui ne se résument pas à celles que j'ai évoquées de la part des théoriciens. Mais au-delà même de la raison, il y a quelque chose qui est de l'ordre probablement du plaisir de la vengeance, du plaisir de la souffrance, qui bien sûr est extrêmement dilué dans la société, encore que lorsqu'il y a quelqu'un qui a commis un crime qui est particulièrement grave, eh bien on sent qu'il y a une jouissance de l'idée que cette personne va être punie, une jouissance collective, mais de façon beaucoup plus dramatique. Eh bien, c'est une chose que l'on voit notamment dans les prisons aux États-Unis, où des surveillants peuvent commettre des actes de façon tout à fait banale, des actes d'une très grande violence sur les personnes. Et ce qui me semble important à comprendre, c'est que il ne s'agit pas d'actes déviants, il s'agit d'actes qui sont entérinés par l'institution, qui refuse les enquêtes, qui refuse les sanctions, et au-delà, qui, je crois, reflète l'idée que la société se fait de comment on doit punir.
Alors là où les choses sont encore plus complexes d'une certaine façon, Didier Fassin, c'est que ce basculement vers un nouveau régime de la punition, c'est-à-dire celui qui lie crime et châtiment de la manière rationalisée ex post que vous avez exposée et dont on voit qu'il ne fonctionne pas, ne concerne au fond qu'une partie de la population. Et c'est ce dont on s'aperçoit quand on se pose, comme vous le faites, la question « qui punit-on ?» et plutôt quand on essaye de comprendre punit-on, comment ? C'est-à-dire les manières différentielles de punir selon les individus, selon en particulier leur appartenance à un groupe social plutôt qu'à un autre, ou selon le type de peine, ce qui renvoie à la même chose. On pourrait partir pour poser cette question d'une actualité, Didier Fassin. La Cour de justice de la République a récemment déclaré coupable Christine Lagarde en tant qu'ex-ministre de l'économie, aujourd'hui patronne du FMI, pour sa responsabilité dans l'affaire de l'arbitrage de Bernard Tapie, mais l'a dispensé de peine. On a là un exemple qu'il est intéressant de mettre au regard de beaucoup d'autres décisions de justice prises en particulier lors de comparutions immédiates, où l'on s'aperçoit que l'articulation entre la culpabilité et la peine en va tout autrement.
Alors, sans prononcer bien sûr sur le cas particulier de Christine Lagarde, c'est effectivement un fait général qui est statistiquement démontré que malgré son augmentation, dans les faits, la délinquance financière et économique est de moins en moins réprimée par les tribunaux. Elle est à la fois les procédures sont longues et puis en général on préfère des négociations, des arrangements avec
des arbitrages.
À l'inverse, lorsque il s'agit de faits souvent assez anodins, parfois gênants certes, comme le vol à l'étalage, comme la détention d'une petite quantité de cannabis, comme la conduite après perte des points de son permis, eh bien on a des risques élevés de se retrouver en prison, surtout s'il s'agit d'actes qui sont commis en récidive. Et donc on voit qu'il y a ce que Michel Foucault appelait une différenciation des illégalismes, avec certains illégalismes qui sont tout à fait bien tolérés dans notre société. Pensons à l'évasion fiscale, pensons aux abus de biens sociaux, etc., qui, certes, pourront donner peut-être au bout de quelques années quelques sanctions, mais dans l'ensemble sont relativement bien tolérés, alors que la petite délinquance l'est beaucoup moins. Alors on pourrait penser qu'au fond, la société fait des choix moraux sur ce qui est plus grave ou moins grave. Bien sûr, ce serait un petit peu étonnant tout de même que la détention de cannabis apparaisse comme moins grave à la société que l'évasion fiscale, mais on pourrait le penser. Mais en réalité, ce dont on se rend compte, c'est que la question de ce qu'on punit renvoie aussi à qui l'on veut punir. Et donc, il y a des catégories de population que l'on considère comme plus punissables que d'autres, et ces catégories sont, en France comme dans la plupart des pays, pour ne pas dire tous, les catégories les plus modestes, les milieux populaires, les minorités ethno-raciales. Ce sont ces catégories-là qui vont être considérées comme punissables, mais jamais on ne le dira de la façon dont je suis en train de le dire. On se fixera sur un certain nombre de délits qui, eux, feront l'objet de ces sanctions. Et c'est comme ça qu'on arrive à une situation comme celle qu'on a en France, où la moitié des gens qui sont en prison n'ont pas d'emploi, et encore un quart ont des emplois ouvriers, et les deux tiers d'entre eux appartiennent à des minorités ethno-raciales. Donc c'est ainsi qu'on voit se mettre en place cette distribution qui, encore une fois, n'est pas spécifique à la France, même si elle y est particulièrement prononcée.
Alors le grand paradoxe, Didier Fassin, c'est que cette politique sécuritaire, punitive, produit des effets dangereux pour la sécurité de nos sociétés. Il suffit de prendre l'exemple du terrorisme et de voir à quel point des carrières délinquantes qui sont souvent en grande partie à l'intérieur des lieux de détention, des prisons, peuvent basculer vers des motifs terroristes, alors qu'au départ il s'agit de petites criminalités. Le simple fait, et on le sait en étudiant les récidivistes, on sait ce qui se passe en termes d'éducation au crime, en quelque sorte, qui peut se produire dans des lieux comme cela. C'est-à-dire que il semble que cette dimension-là soit assez peu prise en compte, puisqu'on prend au sérieux l'argument selon lequel la société se protège en enfermant ceux qui sont dangereux pour elle, sans se rendre compte qu'en les enfermant, elle va, à terme, les rendre encore plus dangereux, encore plus nombreux dangereux.
Alors, effectivement, il y a une équivalence qui semble avoir été faite ces dernières années entre le sécuritaire et le punitif. Pour plus de sécurité, plus de punition. Ce que j'essaye de montrer, mais ce que toutes les statistiques établissent, c'est que lorsqu'on punit plus, et notamment quand on punit plus, on punit plus de petits délits, de petits crimes, puisque c'est comme ça qu'on peut étendre le champ de la pénalité, eh bien, quand on punit plus, court moyen terme, on produit une désocialisation des individus et un risque plus élevé de récidive et donc moins de sécurité pour la société. Mais c'est quelque chose qui se reproduit même à la génération suivante, puisque la déstructuration de familles, parfois même de quartiers entiers, eh bien, c'est particulièrement montré aux États-Unis, mais c'est vrai également en France, produit sur la génération suivante également des difficultés supplémentaires. Et donc, on pourrait donc inverser la formule et dire que plus de punitions, c'est moins de sécurité, et que dès lors, la société française, ou comme d'autres du reste commencent à le faire en Europe, devrait se poser la question que si elle veut renforcer sa sécurité, ce qui est un sentiment bien sûr tout à fait compréhensible, eh bien, il s'agit non pas de plus punir, mais de punir de façon plus ciblée, moins, non pas d'augmenter le nombre de places dans les prisons, mais de réduire le nombre de gens que l'on met en prison, et ceci non pas par bon sentiment ou par naïveté, mais tout simplement pour mieux protéger cette société.
Donc ce mouvement semble s'engager dans certains autres pays, et espérons qu'en France ce type d'argument devienne peu à peu audible, tout simplement, puisque l'un des problèmes, c'est que ce que vous dites dans ce livre, Didier Fassin, on l'entend très très peu dans la bouche des responsables politiques de tous bords.
Effectivement, on peut même se poser la question d'une relative singularité française en la matière. Et il est difficile de comprendre pourquoi, par exemple, la France, de ce point de vue-là, a une évolution différente de l'Allemagne, mais également des Pays-Bas, et puis une situation bien différente de celle des pays scandinaves en particulier. Et il me semble que l'entrée, dès les années 70, c'est pas du tout lié au terrorisme, des questions sécuritaires et punitives a été d'abord, bien sûr, portée par l'extrême droite, a été reprise assez facilement par la droite, ce qui n'est pas été le cas, par exemple, beaucoup moins en tout cas en Allemagne. Et ça a été probablement une erreur stratégique profonde de la gauche de penser que c'était sur ce terrain-là qu'elle allait gagner, alors qu'elle ne peut toujours qu'être suiviste de partis qui sont beaucoup plus des partis d'ordre que la gauche ne le sera jamais.
Merci beaucoup Didier Fassin. Je rappelle le titre de ce livre, Punir, une passion contemporaine. Il paraît aux éditions du Seuil. Vous trouvez les références bibliographiques sur la page de La Suite dans les idées, sur le site de France Culture, page où vous pouvez également réécouter l'émission ou télécharger le podcast. C'était La Suite dans les idées, Sylvain Bourmeau, attaché de production Catherine Denet, à la technique Julien Douminc, à la réalisation Christine Robert. Et dans quelques instants, c'est Étienne Klein que vous retrouvez sur l'antenne de France Culture pour la conversation scientifique.